Bravo à tous! Hey, après-midi, je m'en vais enregistrer mon audiobook. C'est que j'ai hâte de pitcher ça un peu partout. Je pense que dans les prochains jours, ça va se faire. Et j'ai pas la voix à 100% revenue, vous avez peut-être remarqué, mais je veux pas attendre. Ah ouais, je fais ça, puis envoie en ligne, puis de toute façon, le prochain livre et audiobook va être en cours dans pas long. D'ailleurs, je vous en ai parlé, ça va être ce que je fais en conférence, c'est-à-dire le fun au travail. Là, je suis en train de me demander, hier, j'étais en vélo, puis j'avais un plan qui se développait dans ma tête pour un titre de livre sur lequel je demande votre feedback un matin, qui s'appellerait « À quelle date avez-vous prévu de recommencer d'avoir du fun? » À quelle date avez-vous... Ouais, c'est ça. À quelle date avez-vous prévu de recommencer à avoir du fun? Parce que je trouve que le thème du fun, en général, je vois que ça interpelle plus large que juste au travail, tu sais. Ça fait qu'en tout cas, je vous balance ça pour avoir du feedback, voir si ça vous inspire, quoi que ce soit. Ça fait que j'ai hâte de vous envoyer le lien, là, de vous dire, ben ça va être sur mon site. Ça va être cool. Fait que ça va être une première expérience. J'ai jamais lu un livre au complet. Ben, je l'avais fait dans le temps Patreon, là, mais c'était pas dans un studio. Là, je vais au studio de Pixcom dans le Vieux-Montréal. Ça fait que ça devrait être intéressant. J'ai deux sujets aujourd'hui. Mon sujet principal, c'est le chialage, qui a toujours été un thème pour moi assez intéressant. Mais je vais commencer par juste un petit mot. Marie-France Bazot, dans la presse hier, a écrit un article concernant District 31, disant que selon elle, c'était la dernière fois qu'il allait avoir une émission avec ce degré de popularité-là, 6 saisons, 1 600 000 de codes d'écoute sur une base régulière. Puis elle dit que, à cause que, évidemment, tu sais, bon, il y a des questions culturelles, il y a des questions technologiques, le culturel, bon, l'anglais est partout avec Netflix, technologique, il y a un paquet de jeunes, c'est très vrai, qui n'ont pas ça, l'appareil télévision. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas l'appareil radio. Ça, d'ailleurs, saviez-vous que, je ne sais pas c'est où, mais il y a un programme d'une école de communication, style comme à Jonquière. Tu sais, à Jonquière, il y a ATM, là, qui existe depuis très longtemps, qui est un programme très reconnu, où j'ai plein de mes amis, moi, du 93, qui sortent de là, qui font de la radio ou de la télé. Et puis, donc, c'est un programme dans ce genre-là, mais ce n'est pas celui-là. Puis ils ont annoncé il y a un mois qu'ils fermaient le programme radio parce qu'il n'y a pas d'inscription. Parce que les jeunes font comment? C'est même pas une option. Fantastique. Quelle belle relève. Et puis c'est pas de la faute des jeunes. C'est parce que c'est quand tu fais juste parler des feux à Limoilou puis du tramway, c'est sûr que t'as 20 ans et tu t'en sacres, voyons. Bref. Ça fait que... Donc, moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Il peut très bien y avoir encore des succès monstres pour la raison suivante, c'est que contre toute attente, la télé partout, incluant au Québec, a fait une remontée. Ça a été beaucoup plus dur que ça avant. Les revenus étaient vraiment plus au rendez-vous. Les yeux, parce que dans le fond, tout ce qui est média, c'est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, the attention economy, d'où un livre en 2002 qui avait été écrit d'ailleurs par deux profs de Harvard. J'avais lu ce livre-là, c'était vraiment intéressant. Grosso modo, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que l'attention, c'est trois étapes. La première, c'est je suis au courant qu'il y a une porte dans mon condo qui est actuellement, au moment où on se parle, à ma gauche. J'entends trois coups, étape 2, qui cognent à ma porte. La personne qui fait ça espère que je vais avoir entendu son knock-knock sur ma porte. Et étape 3, je me lève puis je m'en vais ouvrir la porte. Ça, c'est les étapes de l'attention. Fait qu'il y a une économie de l'attention dans laquelle les médias s'insèrent. C'est-à-dire, je fais une bonne émission, j'espère avoir plein de monde qui m'écoute, puis là-dedans, j'ai de la pub. Voilà. Ça fait qu'il y a eu donc une drop d'attention. Ces revenus-là allaient sur Internet énormément. Puis il y a eu aussi, si tu veux, une espèce de démocratisation du contenu. C'est-à-dire que tout à coup, Facebook, via tes amis, Twitter, devenaient des vraies sources d'informations. C'était plus juste tel journal. C'est un vrai défi, mais pour lequel je vois que, honnêtement, je trouve que les médias... Je prends l'exemple du Devoir, pour lequel je suis un client très régulier, payant. Ce journal-là, ça n'a plus rien à voir avec l'essai de philosophie que c'était jour après jour pendant des années, pointu, même juste visuellement, le devoir papier était un journal qui avait de l'air d'un journal de la résistance en France. Là, c'était pas ça pantoute. Là, je veux dire, la version numérique est top, tout est top. Leur utilisation des médias sociaux, c'est de loin les meilleurs. Leur compte Instagram, c'est super trippant comment ils fonctionnent. Visuellement, c'est super impeccable. Les alertes qui viennent de l'application Le Devoir, c'est pertinent, c'est varié. Non, franchement, je sais pas s'il faut tout attribuer ça à Brian Miles, qui est le rédacteur en chef, mais en tout cas, je vous en parle à l'occasion, mais juste pour vous dire que c'est un exemple. Avec la presse, qui ont dit « Ah, on arrache », mais... Et puis, ils ont des bien meilleurs chiffres. La presse aussi, bien meilleurs chiffres. La télé s'est beaucoup renouvelée. Même, tristement, c'est la radio en général. Il y a des stations musicales, je suis obligé de vous dire qu'entre il y a 20 ans, si je faisais un quiz, est-ce que tel segment de la radio musicale montréalaise, au Québec en général, est-ce que ça a été fait en 92 ou la semaine passée, vous ne pourriez pas répondre. C'est exactement pareil. Ça fait que là, de deux choses l'une. La société, dans la vraie vie, n'a pas évolué du tout depuis 20 ans. On est tout le monde à la même place, j'en doute. Ou on refait la même affaire en se disant, ben voici des résultats. Des fois, une part de marché de plus, une part de marché de moins. Mais on reste dans le même tal. C'est une question à se demander. Alors qu'en télé, je veux dire, je prends l'exemple de Nouveau. En télé, tu sais, même TVA, qui est une télé encore avec une moyenne d'âge relativement élevée, proche 60 ans, je pense. Hey, en passant, j'avais dit que Paul Arcand, c'est part de marché. Merci Elisabeth Crête, qui travaille sur le show d'ailleurs, qui m'écoute, qui écoute Angle Mort. J'avais dit 22, 23, mais c'était 34 les parts de marché. Je me suis mêlé avec le 20 quelque que la station était autour de 25 à 27. Je pense au dernier sondage, c'était très fort que le 98,5 avait. Mais l'émission à Paul Arcand est vraiment comme. C'est plus haut que jamais. Donc, c'était mon erreur. Merci Liz. Ça fait que moi, ce que je pense, c'est que non, ça se peut encore, même ça se peut plus qu'il y a 6 ans quand District M a commencé. Il pourra y avoir encore des succès de télé. Et la recette, je la connais pas. je vous le dis honnêtement, Luc Dionne, je vois comment il fait pour quasiment à chaque fois mettre le doigt sur ce que tellement de monde vont aimer. Il faut le faire. Moi, j'ai pas ce talent-là, zéro. Lui, il l'a. Ça fait qu'il n'y a pas que lui, je suppose, mais quand même. Ça fait que moi, je crois que non, Marie-France Bazot est négative là-dessus, puis pessimiste. Mais je vous le dis à l'occasion, puis je le répète, c'est vraiment un coup d'éclat, cette remontée-là des codes d'écoute à la télé, que moi, le premier, puis tout le monde, c'était donc à la mode de dire « Oh, moi, j'écoute pas la TV. » Moi, dans mon cas, c'est totalement vrai. Si je l'écoutais, je vous le dirais. J'ai écouté, vois-tu, l'entrevue de Marie-Louise Arsenault. Je l'ai écouté sur Internet après. J'ai même pas écouté l'émission complète. Mais je n'ai rien contre la télé locale québécoise. Au contraire, ça donne que je regarde autre chose. C'est juste ça. Fait que c'est pas un effet de mode, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, je crois que c'est trop sévère comme jugement puis qu'il peut y avoir encore des gros hits québécois qui vont rassembler à mort. Et puis moi, c'est bizarrement une des émissions que j'ai écoutées le plus ces dernières années, c'est District 31, parce qu'à chaque fois que je vais voir ma mère, puis dans l'année que j'étais toutes les semaines à Québec, quand j'étais avec Duhem, ben je l'écoutais. Je l'écoutais jusqu'à 3 fois par semaine. J'écoutais ça de 7 à 7,5. Puis c'est vrai que c'était bon, là. C'est super bon. Mais quand j'arrivais ici, j'arrêtais. C'est comme le film Last Duel. Ça fait plusieurs personnes qui me parlent de ça, un genre de film de cap et d'épée, là, à la Braveheart. Je l'ai commencé hier pour la quatrième fois. À chaque fois, je décroche, puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, t'écouteras ça, c'est super bon. » C'est pour ça que je n'en ai jamais parlé, malgré que c'est vrai que c'est coté à la mort. Anecdote. Mon sujet, je viens pas mal d'en faire un, mais c'est le chialage parce que j'ai eu comme une révélation aujourd'hui. Je me disais, comment ça se fait que quand je regarde Journal de Montréal ou journaldequebec.com, je fais juste regarder le titre, puis je sais combien de commentaires il va avoir. Si c'est société, art et spectacle, économie, 8 commentaires, 22 commentaires. Richard Martineau, Sophie Durocher ont tendance à être plus commentés, mais eux-mêmes varient beaucoup les sujets. Mais quand c'est politique, 52, 127, 275, tu fais comme... Puis ça m'a tout le temps titillé. Comment ça se fait que les sujets politiques, en quoi ça touche tant que ça la vie au quotidien quand il y a 1,6 million? Les gens ne vont pas voter en grand nombre, mais il y a 1,6 million qui écoutent District M. Pas District M, excuse-moi, bien ouvert. District 31. Et je pense que je lis ma réponse, qui a rapport avec l'épisode que je vous ai fait concernant le départ de Jeff Fillion, c'est que c'est le sujet qui attire le plus facilement le chialage. Chialer sur District 31, il faut le faire. C'est-à-dire qu'au pire, tu fais « j'aime pas ça ». Puis à la rigueur, si t'aimes pas ça, tu peux ne même pas comprendre pourquoi t'aimes pas ça. Une publicité qui marche, une publicité qui marche pas, si vous n'êtes pas dans cette business-là, là, vous n'allez pas savoir nécessairement c'est quoi les mécaniques qui font que ça vous attire ou pas. Une bonne publicité, c'est pas une publicité nécessairement que tout le monde aime. Hein? Il y en a eu plein des publicités que tout le monde aimait, tout le monde trouvait drôle, qui ne faisaient rien vendre. Allez hop, cascade, les plus vieux vont se souvenir avec André-Philippe Gagnon. Tout le monde a vu ça. Ça s'est démarqué à mort. Ça a fait de vendre zéro char. C'est connu, là, tu sais. Ça fait que c'est ça, moi, mon hypothèse. C'est que les médias sociaux ont fait une résonance dans le sujet le plus facile à chialer, qui est politique, mélangé avec religion. Donc, mélangé avec la religion des autres, bien entendu, parce que la sienne, quand t'es croyant, t'as pas un mot à dire. Ça fait que ça m'a comme sauté dans la face. J'ai fait, c'est pour ça que la politique attire autant l'attention d'une certaine frange. J'ai des gens qui s'en sacent total. Ils n'ont aucune idée de... Puis moi, je l'ai souvent dit, « Information is overrated ». Cette espèce de croyance-là que, ah oui, c'est important d'être informé. Pas en tout. Tu peux faire ta vie en n'étant aucunement au courant. Tu ne lis pas un journal. Tu nuis à personne. Tu payes tes impôts. Tu fais ta vie. Tu élèves tes enfants. Tu n'es juste pas au courant de rien. Tu ne vas pas voter. C'est pas un plus, mais sérieux, ça change rien. Ça fait que les gens qui s'intéressent à la politique, il y a du monde, c'est parce que ça vient les chercher. Moi, tu vois, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a de la sociologie, il y a de la psychologie, il y a de la façon que les gens... Moi, je trouve que ça recoupe beaucoup de choses, mais c'est plein de monde qui sont là juste pour chialer, juste pour dire que c'est dégueulasse. Puis c'est plein, mais une dose là, ahurissante. Ça fait que je me dis, c'est la raison pour laquelle ça suscite autant d'intérêt dans les chambres d'écho comme Twitter notamment. Twitter, là, l'écrasante majorité des Québécois sont pas là. Ils savent même pas c'est quoi. Quand tu y vas, tu as l'impression, oh mon Dieu, la vie joue là. Ben oui, t'en parleras à Éric Zemmour, voir, qui a fait 7 % alors qu'il brûlait le marché pendant les 6 mois où il a fait campagne. Voilà. C'est ça, la vraie définition de chambre d'écho. Fait que le chialage, c'est puissant. C'est vraiment un... Puis soyez compris, mais ouin pis, là, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est que... C'est comme si j'ai tout le temps observé, mais c'est la première fois que je le mets clair, la puissance du chialage dans ce qui nous interpelle. Puis je le répète, parce que ça, j'en ai déjà parlé, puis je vais terminer là-dessus. Les gens qui sont chialeux sont d'abord interpellés parce qu'ils les fâchent. Moi, c'est pas ce qui me fâche qui m'interpelle en premier. Mais les gens fâchés de nature, pour toutes sortes de raisons que j'explique dans le livre, blablabla, ben, ce qui les trigger tout de suite, là, c'est ce qui les fâche. C'est que la politique, si ça les craint, là, ils sont tout le temps en train de checker ça, puis c'est tout le temps comme gaga, gaga, gaga. Fait que c'est un moteur hallucinant que je vous suggère si fortement de ne pas avoir. Si vous réalisez que vous êtes fâché puis que vous êtes crinqué sur telle ou telle affaire, de grâce, prenez une distance. D'abord, vous ne changerez rien à rien. Il y a un gars qui m'a écrit hier, Étienne, un jeune qui ne m'avait pas parlé encore. Très articulé, super intéressant. Il me fait un long message, puis il me dit, « Hey, là, j'ai compris quelque chose sur Tinder. T'as d'un côté ceux qui en arrachent, puis t'as ceux qui pognent au bout. » Puis là, il dit, « J'ai compris que l'algorithme, tout, tu sais, puis il fait, c'est complètement injuste, puis c'est fait pour blesser du monde. » Puis c'était très, très articulé. Sa vision était super intéressante, mais j'ai dit, « Man, la réalité, c'est tu vas changer quoi? » De un, même si tout ce que tu dis c'est vrai, c'est pas illégal de le faire. Ça s'appelle un algorithme. Ça n'a jamais été légiféré comment un algorithme peut être légal ou pas légal. Donc, c'est légal. Fait que tu peux organiser ça comme tu veux. Tu peux dire, ah, quand lui fait ça, on fait ça, t'as l'affaire. C'est ça l'idée même d'un algorithme. Fait que c'est intéressant ton observation. C'est vrai que ça doit faire en sorte qu'il y a du monde qui sont comme, qui pensent que peut-être ça passe proche, puis finalement, ça les ramène toujours dans une espèce d'état de loser, là. Mais c'est parce que c'est légal. Fait que c'est ça que je disais. Je disais, tu sais, la réalité, c'est qu'une fois que tu as fait ce constat-là, tu vas faire quoi? Même si c'était illégal, même si tu venais de trouver de quoi là, un peu à la WikiLeaks, là. T'sais, genre là, toi, t'es un lanceur d'alerte, là, mais tu vas faire quoi? Pour Tinder, je peux-tu te dire une affaire? S'il y a une clientèle que tout le monde méprise, c'est les célibataires. Je te jure qu'il n'y a pas un journaliste qui va dire « Hein, il y aurait un gros scandale en dessous de Tinder, ça va être moi qui va être à... » Non, non, non. Si c'est pour dénoncer un parti politique, ah ben là, allez hop la cavalerie. Mais pour rendre justice à du monde célibataire dont plusieurs sont justement qualifiés de losers, eh bien, bonne chance. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée.